Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Bienvenue en 2025, mes très chers amis, dans l'émission peut contenir des infos. Simon Forgue au microphone. Et le collègue Sébastien Boucher qui est là avec moi. Salut Sébastien!
Salut! On va souhaiter une belle saison de Peut contenir des infos en ce début d'année.
Ben oui, absolument. Passez un heureux temps des fêtes.
Vraiment, vraiment, en famille. Hein. Qu'est-ce qui peut remplacer le temps passé en famille? Surtout que je suis assez loin de ma famille présentement, géographiquement. Donc, de les retrouver, ça a été magique encore une fois cette année. Donc, très beau temps des fêtes, des souvenirs mémorables.
Bon, fantastique. Parle-moi de ça. Et puis, on a eu du plaisir, on a bien mangé, et là, on est prêt pour une saison complète de Peut contenir des infos avec des sujets, ma foi, très intéressants. On va parler d'ici la fin de l'émission, entre autres choses, d'une nouvelle génération qui arrive avec l'année 2025. Toi, dans le deuxième bloc tout à l'heure, tu auras l'occasion de nous parler également de petits animaux de compagnie, si je me trompe pas.
Oui, les chiens et les chats, est-ce que ça peut cohabiter ces deux beaux animaux? Hein? Je pense que oui, on va regarder les avis d'experts.
On aura l'occasion également de vous parler dans la troisième portion de Peut contenir des infos de cette semaine, des planches à découper. On les aime, les planches à découper en plastique, mais elles ont peut-être des côtés, comment je dirais ça, un peu inattendus. Disons ça simplement comme ça. Et je vais peut-être vous donner à réfléchir sur l'utilisation des planches à découper en plastique. Toi, tu vas nous parler également dans ce bloc-là des effets inattendus de quelque chose sur une partie du corps humain qui, je vois pas trop le rapport entre les deux finalement.
C'est presque ça, c'est presque ça. Je vais parler du jeûne intermittent. Hein. Ça, c'est une technique, on va dire, que beaucoup de gens utilisent. Mais là, il y a une récente étude qui dit que ça peut avoir un effet malheureux sur la pousse des cheveux. Alors, ce sera à tenir compte.
OK. Et puis, je vous informe, mesdames, messieurs, que à la demande générale, bon, on fait comme si les gens l'avaient demandé à répétition, mais je sais que les gens aimaient beaucoup le quiz. On avait instauré c'est l'année passée, je pense, on avait commencé la formule d'avoir un quiz dans l'émission Peut contenir des infos. Et ça complétait l'émission dans la quatrième et dernière portion de Peut contenir des infos. Et devinez quoi? On ramène le quiz.
Oui, on revient avec des quiz. Bon, moi, ça va être ma première fois que je participe à ces quiz de fin d'émission. Ben oui, puis aujourd'hui, ça va porter sur... on avait déjà parlé précédemment de rêves, de sommeil et tout ça. Et il y a de nombreuses questions qui sont apparues un peu partout. Autant des auditeurs que des questions que j'ai vues apparaître concernant ça sur Internet. Alors, on va faire les questions et réponses portant sur les rêves et le sommeil en fin d'émission aujourd'hui. Pourquoi pas?
Alors, parfait, ce sera pour notre quatrième et dernière portion de « Peut contenir des infos ». Mais d'entrée de jeu, on va parler de la famille traditionnelle en 2025.
En 2025, ben oui, parce que là, est-ce que ça existe encore? Ben oui, hein? Il y en a encore des familles traditionnelles. La femme au foyer, hein? ça existe. Puis, on peut regarder par contre dans les dernières décennies, vraiment, là, les femmes ont gravi les échelons. Hein. Quand on regarde point de vue social, ben, sont diplômées premièrement, elles entrent sur le marché du travail, elles deviennent premières ministres, hein, comme Madame Susan Holt au Nouveau-Brunswick. Mais pour certaines, il y a vraiment encore des femmes au foyer, hein, même s'il y en a moins qu'à une certaine époque. Puis il y a beaucoup de femmes qui trouvent le mode de vie traditionnel assez attrayant. Donc, ça existe encore plus qu'on le pense même, et c'est surtout pour les attentes sur le plan financier. Quand on regarde une femme qui décide d'être femme au foyer aujourd'hui, ben si l'arrangement convient là aux deux parties, elle n'a pas à se soucier de son compte de banque, l'épouse au foyer. Épouse traditionnelle, ben, c'est souvent une des raisons. Elle peut passer son temps aussi avec ses enfants. Ça lui permet de tisser des liens familiaux assez solides et enseigner toutes les compétences aux enfants importants. Donc, c'est surtout pour du temps. Puis, il y a les passe-temps domestiques comme la cuisine, la pâtisserie, la couture, le jardinage, décoration d'intérieur, des choses comme ça là, que les femmes au foyer font avec brio. Mais c'est ça, il y a certaines femmes qui apprécient la répartition claire des tâches. Elles font souvent les tâches ménagères, l'éducation des enfants. Quand on regarde une famille traditionnelle, c'est vraiment ça. C'était la maman qui éduque et qui lave la maison. Toujours impeccable à la maison. Puis il y a beaucoup d'épouses traditionnelles qui ont été influencées par leurs parents, leur communauté. La plupart d'entre elles sont issues de générations de mères au foyer. Alors ça s'est passé de génération en génération, puis on se dit, c'est dans le fond la seule voie acceptable. c'est pour une femme de rester à la maison. C'est une pensée qui existe encore. Je suis d'accord avec toi, tu vas sûrement dire c'est en train de disparaître. Mais ça me surprend à quel point il y en a beaucoup.
Ben, c'est curieux parce que je t'écoute parler puis j'ai l'impression de me retremper dans les années 70 et les années 80.
Oui, hein?
je t'écoute parler puis je veux pas dénigrer, ça a aucun rapport. Là. Je suis pas en train de faire l'apologie de la femme au foyer, je suis pas en train de dénigrer celles qui choisissent d'aller travailler et vice-versa. C'est pas ça l'affaire, mais j'ai comme l'impression que dans notre société moderne, en 2025, on est rendu en 2025, il me semble que c'est un modèle de vie ou un modèle de, on va dire, de société, ou je sais pas trop comment appeler ça, qui m'apparaît assez révolu. Et tu me surprends en me disant qu'il y en a tant que ça.
Mais on sait que pour la plupart du monde, en fait, passer du temps avec les proches, c'est souvent la partie la plus précieuse de notre vie. Une épouse traditionnelle, elle peut se concentrer sur ce qui compte le plus, souvent passer beaucoup d'heures avec ses enfants, son mari. Mais le fait qu'on n'a pas se soucier aussi à soucier du la maison, que la maison soit propre pour les invités, des choses comme ça. Quand on a une femme à la maison là, qui est une épouse traditionnelle, souvent, c'est spick and span. Là. Donc, c'est bien pour la maison, mais il y a beaucoup d'épouses traditionnelles qui associent leur mode de vie à la religion. C'est parce que, tu sais, aux États-Unis, on en entend beaucoup parler que c'est encore très religieux. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde, mais ceux qui sont associés à la religion, beaucoup, ces femmes-là prennent leurs vœux très au sérieux. Là. Aujourd'hui, sont désireuses de plaire à leur mari, d'embrasser leur féminité aussi. Et souvent, pour eux, la seule option, c'est d'être femme au foyer. Donc, c'est avec la religion qui perdure dans plusieurs endroits dans le monde, ben ça donne ça. Beaucoup de familles traditionnelles encore. Mais il y a des inconvénients. Ça, c'est sûr, tu me voyais venir avec l'idée, là, aujourd'hui, dans le monde qu'on est, là, la dépendance financière, c'en est un gros, hein.
Ben, c'est ce que j'allais dire. Il y a toujours deux revers à une médaille. S'il y a des bons côtés à quelque chose, il y a toujours une contrepartie, là. Et le côté financier m'apparaît comme un des plus importants, là.
Ouais, c'est ça. Ça fait plaisir de pas avoir à se soucier des finances. On se stresse pas avec ça. Mais une femme traditionnelle va dépendre toujours de son mari financièrement, là. C'est ça l'affaire. Là, un manque de contrôle aussi parce qu'une épouse traditionnelle est comme un peu secondaire quand il est temps de prendre des décisions. En tout cas, dans la plupart là, des familles qui sont encore traditionnelles. Puis, on n'a pas vraiment de carrière de développer là, du côté d'une épouse comme ça au foyer. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent leur carrière épanouissante, mais pour des épouses traditionnelles, là, souvent, ça fait partie du contrat de renoncer à ses aspirations professionnelles parce que ça n'arrivera tout simplement pas. Puis, il y a l'isolement qui est à considérer aussi. Les femmes modernes sont souvent considérées comme l'antithèse de l'épouse traditionnelle. On est vraiment dans une autre branche là présentement. Puis, ils sont capables de se faire des amis grâce à leur travail. Mais là, une épouse à la maison, généralement, le cercle social est très restreint. Puis, on parvient à se faire des amis mamans, comme dans certains cas, par le biais des relations scolaires. Mais souvent, ça se limite à ça. Alors, c'est un gros inconvénient. Puis, la dynamique est inégale aussi. Il existe vraiment un déséquilibre des pouvoirs dans les foyers traditionnels là, qu'on peut voir. Puis, on en parlait un peu tantôt, rôle décisionnel et tout ça. Mais le rôle des hommes et des femmes aussi, tu sais, on avait des rôles traditionnels avant qui sont en train de disparaître. Là, en 2025, on voit moins ça. Mais ça peut être exigeant. Il y a certains qui pensent que des épouses, par exemple, ont la chance de rester à la maison pendant que l'homme travaille, mais en réalité, là, on saura qu'une femme travaille souvent plus longtemps et plus dur qu'un homme au travail quand elle reste à la maison parce que, ben, c'est ça. Elle peut pas rentrer chez elle, premièrement, après sa journée de travail pour se reposer. Elle est déjà chez elle, puis à travailler toute la journée, ça arrête pas, ça nettoie la maison, on prépare les repas. Aussitôt qu'elle se réveille, hein, souvent l'épouse, la femme au foyer. Puis, il y a le risque d'échec, parce que si la relation marche pas, imagine, là, t'es une épouse traditionnelle, puis à un moment donné, c'est sûr, le risque d'échec dans la relation demeure, puis qu'est-ce qui se passe si, par exemple, il y a une faillite? Ça, c'est un autre genre d'échec, là. C'est pas un échec de la relation, mais si le mari fait une faillite et qu'il est le seul soutien de la famille, ben, il y a tout un stress aussi, là. Et puis, tout va s'effondrer s'il échoue. Souvent, la famille ne peut même plus survivre à ça, puis ça cause la rupture du couple. Alors, c'est ça. Il y a une vulnérabilité en cas de divorce parce que si on divorce, tout le monde s'écroule autour d'une femme traditionnelle aujourd'hui. Pas de perspective de carrière, pas d'argent à elle. C'est évident que les enfants vont rester chez leur père, hein, si c'est le seul qui travaille. Donc ça, c'est dangereux, ce côté-là d'une famille traditionnelle aujourd'hui. Alors, on est très dépendant. Puis, il y a le manque d'identité parce que l'identité d'une femme traditionnelle est dictée par son partenaire et ses enfants souvent. C'est une mère, une épouse, puis pour beaucoup, c'est suffisant. Mais pour d'autres, qui auraient des objectifs plus importants, c'est le problème. Et je vais finir sur les familles traditionnelles en disant que c'est devenu aujourd'hui, on va dire, inabordable, presque infaisable de financièrement. Dans le monde moderne, là, être une épouse traditionnelle, c'est trop dur parce que le coût de la vie est élevé. Ça conduit malheureusement beaucoup de femmes à assumer le rôle traditionnel et à travailler en plus. Pas le choix. Alors, être une femme au foyer aujourd'hui, à un moment donné, puis avoir toutes ces tâches-là, puis devoir travailler en plus, c'est très exigeant. Alors, on voit que le monde et les temps changent, puis la tendance s'en va vers la disparition de la famille traditionnelle, mais ça demeure encore aujourd'hui beaucoup et surtout dans la religion.
Ça clôt pour ce premier sujet, ce premier bloc de Peut contenir des infos. Dans un tout petit instant, on va vous parler, entre autres choses, de la cohabitation entre les chiens et les chats. Et je vous parlerai, moi, personnellement, au retour de la pause, d'une nouvelle génération qui arrive avec l'année 2025. Restez branchés, c'est Peut contenir des infos.
Peut contenir des infos.
Deuxième portion de « Peut contenir des infos » et je vous arrive avec une nouvelle génération, mes très chers amis. Ouais, les bébés qui vont naître à compter de l'année 2025 et ce, jusqu'au tournant à peu près de l'année 2040, on va dire 2039, là. Alors, ce sont des bébés qui vont appartenir à une nouvelle génération et elle s'appelle, cette génération, la génération bêta.
Hey. Bêta, ça c'est après X, Y, Z, là.
Exactement. Et pourquoi la génération bêta? Ben parce que dans l'alphabet grec, la deuxième lettre qui suit l'alpha est le bêta, tout simplement. Et comme la précédente génération qui est née entre 2010 et 2024, c'était la génération alpha, la communauté scientifique, quand on parle de la communauté scientifique, on parle des, par exemple, les démographes, les sociologues, les historiens, etc. Eh ben, ils se sont entendus que la suite logique pour la génération suivante allait être la génération bêta. Donc, c'est pas tellement surprenant dans la mesure où on était rendu à la fin de l'alphabet avec la génération Z. Hein? Génération Z, elle est constituée des personnes qui sont nées de 1995 à 2009. Alors, qu'est-ce qui caractérise une génération de façon générale? C'est quoi le concept? Ben, c'est essentiellement une génération, c'est un groupe de personnes. C'est des personnes qui sont à peu près du même âge et qui vivent à la même époque et qui partagent un certain nombre de pratiques et de caractéristiques. Donc, allez pas penser que parce que vous êtes né dans une génération, on va dire X, Y ou Z, vous êtes tous nécessairement dans le même moule, vous mangez toute la même affaire, vous exercez toute la même profession, mais de façon assez générale, les gens qui sont nés dans une certaine génération ont, on va dire, une appartenance, un courant de pensée qui est assez caractéristique à l'époque dans laquelle ces personnes-là sont nées. C'est un concept qui est très utile, par exemple, en psychologie, en sociologie, en démographie. Hein, ça aide, si on veut, à définir les gens qui appartiennent à une certaine génération. Ils sont influencés par quoi? Ils sont influencés par les technologies de leur époque, les valeurs, les événements, même les courants musicaux. Hein? Il y a des courants Il y a des courants musicaux et des courants, par exemple, de style cinématographique qui sont propres à telle génération. Alors, qu'est-ce qui va, selon vous, caractériser ou définir la génération bêta par rapport à la génération précédente, les alpha? Technologiquement, d'abord, il y a une chose est certaine, c'est que les membres de la génération alpha se sont familiarisés avec les technologies qu'on va dire intelligentes.
Oui, c'est les premiers là qui sont là pendant l'IA et tout.
Voilà, justement. Alors, les gens qui sont nés de la génération alpha, les gens de la génération alpha, ce sont ceux qui sont nés depuis 2009 ou à peu près jusqu'à 2024. Alors, ces gens-là, ils sont nés avec, grosso modo, la génération ou enfin les technologies dites intelligente. Et ceux de la génération bêta, ce sont les premiers qui vont littéralement vivre avec l'intelligence artificielle et l'automatisation dans tous les aspects de leur existence, tant au point de vue personnel que professionnel. Les gens de la génération alpha, ils ont vu naître les technologies dites intelligentes. Eh bien, les bêta, dites-vous, eux autres, ils vont vivre avec.
Ouais, c'est ça, hein. C'est ça. C'est la nouvelle génération qui commence cette année.
Exactement. Alors, ce sont des jeunes qui vont, par exemple, les autres, ils vont être habitués. Quand ils vont partir de la maison le matin, ils vont dire « Alexa, ferme les lumières ». Puis quand ils vont repartir du bureau l'après-midi, ils vont dire à Google Home ou encore à Alexa, « Alexa ou Google Home, j'arrive là dans 25 minutes, une demi-heure, je vais être rendu à la maison. Allume les lumières, ouvre les thermostats, fais démarrer la cuisinière et puis le filtre à l'eau. Et puis dans 25 minutes, une demi-heure, je vais être à la maison puis je veux que tout fonctionne. » On n'a pas connu ça, nous autres.
Non, c'est clair. Hein, t'sais, on n'avait pas... C'est fou tout ce qui apparaît, là. Puis moi, juste dans la dernière décennie, quand je pensais avoir eu ça quand j'étais enfant, il y a beaucoup de choses que j'aurais littéralement capotées.
Hey, c'est ça. Nous autres, on n'a pas connu ça, on n'a pas vu ça. Et ces jeunes-là, eux autres, ils vont voir ça tout au long de leur vie parce que les jeunes de la génération alpha... Ils sont pas encore propriétaires d'une maison. Donc, ils partent pas encore de la maison le matin en disant « Alexa, ferme les rideaux puis ferme les lumières parce que je m'en vais au bureau. » Eux autres, ils commencent à voir émerger ça, les jeunes de la génération alpha. Mais les jeunes qui arrivent en 2025 et qui vont grandir là-dedans là, tout au cours de leur existence, eux autres, ils vont avoir les deux mains dedans là, dans l'automatisation et dans l'IA. Et ça va même bousculer, je vous dirais, jusqu'à... comment je dirais ça, leur quotidien, leur façon de penser, leur façon de travailler. Alors, ces enfants vont être éduqués par les membres des générations Y et Z. Ce sont des gens qui sont nés depuis environ le début des années 80 et même la façon dont ils vont être élevés par les jeunes de la génération X et les gens de la génération Z, même ça, ça va influencer les jeunes de la génération bêta parce que forcément, ces personnes-là ne pensent pas comme nous autres de la génération X ou encore les boomers qui avons vu d'autres technologies, qui avons travaillé et qui avons vécu d'une autre façon. Ces jeunes de la génération bêta risquent donc d'être fortement influencés par des valeurs, l'égalité, l'écologisme, entre autres choses, et ils vont devoir faire face à de nombreux bouleversements de notre monde au cours de leur jeune vie. Ils vont donc devoir s'adapter aisément aux différents changements qui vont survenir et, dans certains cas, très rapidement. Je vous donne quelques chiffres. On estime que d'ici une décennie environ, on est en 2025, une décennie, ça nous amène en 2035, la génération bêta va former à peu près de 15 à 16 de la population mondiale et plusieurs d'entre eux pourraient connaître le 22e siècle. Ben oui, forcément, parce que en 2101, quand on va entrer de plein pied dans le 22e siècle, les bébés qui ont vu le jour en 2025, ils vont juste avoir 76 ans en 2101, c'est-à-dire. Donc, à ce moment-là, eux autres vont avoir 76 ans, ils vont être rendus à leur pension de vieillesse, là, mais ils vont être capables de dire, moi, j'ai vu le 21e siècle. Et puis, je vois le 22e siècle. Grosse chance que nous autres, on sera plus là en 2101. Là. Je ne sais pas pour toi, là, mais... Ouais.
Non, c'est impossible.
À moins que les miracles de la technologie, les miracles de la médecine réussissent à prolonger notre existence de quelques dizaines d'années, là, je ne pense pas qu'en 2101, je vais être là. Alors, en terminant, quelle est votre génération selon votre année de naissance? Est-ce que tu les connais, les générations, Sébastien?
Ben c'est à peu près parce que quand je cherche par rapport aux générations, je trouve par exemple sur Wikipédia une date, puis ailleurs, c'est pas exactement la même date. Fait que je connais à peu près là, les décennies comme génération X, là, c'est à peu près de 79 à 89. Ça finit en 79, donc c'est à peu près 70 à 79, mais c'est dans ces eaux-là.
Je vous donne tout ça. Et tu as parfaitement raison quand tu dis que les chiffres diffèrent d'une place à l'autre parce que le concept de génération, c'est pas quelque chose qui est tout à fait coulé ou fixé dans le béton. Mm-hmm. Parce que ça peut être influencé selon les sociétés. Hein, à tel endroit du globe, on peut, par exemple, définir les générations d'une telle façon. En Occident, on les généralise ou on les catégorise d'une autre façon. Mais de façon grosso modo, là, dans la société occidentale ou dans la nôtre ici, en Amérique du Nord, les personnes qui sont nées de 1905 jusqu'au tournant des années 30, ce sont des membres de la génération grandiose. Si vous êtes né de 1928 à 1945, vous êtes ce qu'on appelle la génération silencieuse, c'est comme ça qu'on l'appelle. Les boomers ou les baby boomers sont nés dans le boom démographique qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire entre 1946 et 1964. Génération X, elle a vu le jour, cette génération, de 65 à 79. Génération Y, ce sont les gens qui sont nés de 1980 à 1994. La génération Z, celle qui a fini grosso modo, le millénaire et qui a entré dans le nouveau, eux autres sont nés de 1995 à 2009 et la génération alpha, celle qui a précédé celle qui vient de naître ou qui commence à naître, la génération bêta. Alors, la génération alpha, ce sont les gens qui sont nés entre 2010 et 2024. Voilà. T'as 3-4 minutes à peu près pour nous parler des chiens et des chats. Tu es capable de faire ça?
Ça devrait. Les chiens et les chats, c'est parce que des gens se demandaient là si ça cohabite bien. Et ben je pense que oui, hein, c'est possible d'avoir des chiens et des chats qui habitent ensemble. Si la cohabitation devient compliquée, il y a des solutions qui sont quand même qui existent aussi là. Alors les chats là, on a appris que ça préfère même la présence d'un chien si on compare à un autre chat. Hein? Un chat, ça aime mieux vivre avec un chien qu'un autre chat parce que ça fait vraiment de la bataille. Hein? Deux chats ensemble, là, je sais pas si tu sais, mais c'est James Bond des fois dans la cuisine dans le salon. Là. C'est vraiment ça fait du beau spectacle. Moi, j'aime ça voir des chats courir après là, puis faire des pirouettes, mais quand même. Il y a l'expression comme chien et chat, ouais. Comme si les deux sont supposés de se vouloir la guerre tout le temps, mais ça, c'est vraiment pas tout à fait vrai, hein, expression. On dirait comme chat et chat, pis ça aurait plus de sens que de dire comme chien et chat, parce que chien et chat, dans la plupart des cas, sérieusement, ça s'entend bien. Il y a certains chiens qui peuvent parfaitement habiter avec des félins, mais parfois, bon, les rapports deviennent tendus. Et là, les propos d'un vétérinaire Thierry Bedossa et d'une docteure en éthologie et psychologue Sarah Jenin. Ça, c'est deux spécialistes du comportement. Ils ont été interrogés au sein de la clinique vétérinaire de Pont de Neuilly en Europe. Neuilly. Et ils apportent des informations concernant la cohabitation chien-chat. Alors, c'est assez intéressant pour voir. Pour un chat, le fait que ça s'entend bien avec un chien, c'est que le chien est comme rassurant. Ça fait une présence rassurante, un peu au même titre qu'un humain. Tu sais, aux yeux d'un chat, là, un chien devient un être rassurant. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, les deux spécialistes dont je te parle, ils s'accordent sur ce point. La cohabitation peut être plus difficile entre chats qu'entre chien et chat. Alors ça, c'est vraiment rendu connu. Pour certains chats, un chien, donc, c'est un être confortable, on va dire. Puis, c'est rassurant à condition qu'ils se mettent pas à courir après.
Ouais.
Ça, c'est sûr. Et c'est sûr que le mieux, c'est d'habituer le chien à la présence du chat dès qu'il est petit. Hein, c'est vraiment ça l'idéal. Alors, je vous le dis, c'est merveilleux d'avoir des chiens et des chats qui s'entendent bien. Moi, je l'ai vu dans les dernières années. Puis, j'ai trouvé ça merveilleux d'avoir les deux. Puis même qu'ils se collaient des fois. Puis j'aimais ça voir le chat se rapprocher tranquillement du chien. Puis à un moment donné, vraiment aller même s'accoter dessus. Je trouve ça mignon comme tout. Mais s'il n'y en a pas vu de chat auparavant, ça c'est sûr, un chien va partir à courir après. Hein? C'est ça qu'on appelle le déclencher. L'idée, c'est de pas déclencher le chien qui part à courir. Pour pas qu'il ait envie de le poursuivre, mais un chien qui se met à courir après les chats, c'est pas une fatalité, ça peut se réparer. En fait, ça peut se guérir, on va dire, okay. Si c'est une maladie. Mais en fait, un chien qui fait de la prédation, il peut apprendre à changer son comportement. Pour ça, c'est nécessaire de faire appel souvent au conseil d'un professionnel, puis l'animal va apprendre progressivement à ne plus se déclencher. La fameuse affaire. C'est aussi possible de donner au chat des accès en hauteur. Ça, t'as sûrement vu, hein, des maisons qui sont toutes adaptées, là,
oui.
Pour que le chat puisse aller en haut des tunnels qui font le tour de la cuisine. Ça, c'est parfait. Si vous avez chat et chien, dans le fond, là, vous arrangez pour avoir un logement structuré en 3D.
Okay.
Puis c'est vraiment la meilleure affaire. Possible que le chat puisse se sauver. S'il y a des places pour se sauver que le chien n'a pas accès, le chat va être super heureux. Alors, il pourra s'isoler et il faut placer des petites caches, des passages, des passerelles surélevées et tout ça. Et c'est merveilleux de cohabiter chat et chien. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Ça se fait très, très bien. Les vétérinaires le disent, les spécialistes le disent. La cohabitation peut être parfaite et c'est même très agréable de vivre avec un chien et un chat dans la maison.
Alors, si jamais vous planifiez d'avoir un chien et un chat dans la maison, Sébastien vient de vous rassurer.
C'est mieux que deux chats.
C'est mieux que deux chats. Bon, ben tant mieux, OK.
La plupart du temps, c'est sûr qu'il y a des chats qui s'entendent très bien, là, mais on parle en général. Hein. Mais souvent, un chat et chien, ça devient là, très, très bon parce que le chat, justement, se sent confortable avec la présence d'un chien.
Dans un tout petit instant, au retour de la pause, on parle des effets insoupçonnés du jeûne intermittent sur
les cheveux.
Incroyable.
Oui, mais ça peut être bon, jeûne intermittent, mais là, ça, c'est un petit bémol là, dont on va parler.
OK, parfait, on revient dans un instant.
Avertissement.
Cette émission peut contenir des infos.
De retour à Peu contenir des infos, on va parler de la relation, c'est ce que je voulais dire, la relation oui. un peu bizarre entre le jeûne intermittent et la pousse des cheveux. Je comprends pas trop.
Oui, ben jeûne intermittent, ça, on pourra définir c'est quoi un petit peu. C'est très répandu là présentement. Une façon, ben, ça peut être pour perdre du poids, ça peut être pour toutes sortes de choses pour la santé. C'est une restriction alimentaire, mais ouais. ça cause une hausse de stress oxydatif. Et c'est là que la nouvelle étude devient intéressante. Ça affecte les cellules souches folliculaires et s'entrave donc la régénération des cheveux, la régénération capillaire. Et on pourrait regarder ce que c'est le jeûne intermittent. Bon, restriction alimentaire, on mange seulement pendant quelques heures de la journée. Tu sais, il y a des heures où on a le droit de manger tout ce qu'on veut, mais après ça, on mange plus rien. Souvent, on a comme 4 heures dans la journée où on peut manger n'importe quoi, puis ensuite, pendant 16 heures ou même 20 heures, on mange rien du tout. Puis après ça, c'est des jeûnes intermittents. On dit manger moins pour vivre longtemps.
Je pratique sans le vouloir oui. et sans même l'avoir jamais défini le jeûne intermittent depuis pratiquement 25-30 ans. Oui. Ça veut dire que c'est bizarre parce que j'ai commencé à faire de la radio il y a à peu près une trentaine d'années, grosso modo, le matin. Fait que je déjeunais pas. Ouais, si je prenais un café avant de rentrer en onde, là, peut-être une heure avant de rentrer en onde ou quelque chose dans le genre. Puis je dînais pas non plus le midi. Ça fait que depuis 25-30 ans, je ne déjeune pas ou à toute fin utile presque pas le matin, sauf en de très, très rares circonstances, on va dire peut-être la fin de semaine. Et puis, le midi, je mange pas non plus. Fait que je choupe le soir, puis je prends une collation avant de me coucher ou comme okay. 9h30, 10h, quelque chose dans le genre. Fait que c'est ça.
Tu te nourris dans le même 4 heures, là.
Ouais, grosso modo. Ah, fait qu'un souper, un bon souper, puis une collation le soir, mais le restant de la journée, il y a pas comme de bouffe, là, dans mon cas. Là. Ça fait que tu vois, je fais un jeûne intermittent, mais j'ai jamais appelé ça un jeûne intermittent.
As-tu des problèmes avec les cheveux?
Pantoute.
Bon, parfait.
Non, du tout dans mon cas.
C'est parfait, ça. Hey, mais en fait, je te comprends parce que c'est un peu ça que je vis moi aussi. C'est quelque chose, mais c'est pas mauvais pour la santé. Hein. Ça peut même être très bon, le jeûne intermittent. Et c'est ça, on dit même que ça peut permettre de vivre plus longtemps. Il y a beaucoup d'études sur le jeûne intermittent. Puis chez des modèles animaux aussi qui ont montré que l'approche pourrait être bénéfique. Ça protège le cœur, ça pourrait diminuer le risque de maladies métaboliques. Alors non, c'est très, très bien. Puis si tu le fais comme ça, juste naturellement, à cause de ton horaire, ça peut être très, très bien. Mais là, la nouvelle étude dont je te parle, qui a rapport avec les cheveux, ça a montré que le jeûne intermittent peut avoir des effets moins désirables. C'est des chercheurs de l'université Xinjiang en Chine qui ont mis en évidence chez des souris et des humains que le jeûne intermittent affecte les cellules souches folliculaires, ça ralentirait la repousse des cheveux. Puis les résultats ont été publiés, là, si ça vous intéresse, de voir dans la revue Cell, c'est le 13 décembre 2024, là, cette étude-là, donc c'est assez récent. Okay. Puis pour savoir si le jeûne intermittent pourrait avoir un quelconque impact sur la repousse des cheveux, ils ont rasé des souris. Ils ont rasé pour les nourrir ensuite avec deux types de restrictions alimentaires. Il y avait le jeûne intermittent. Là, les souris avaient accès à de la nourriture uniquement pendant 8 heures, puis ils devaient jeûner pendant les 16 heures restantes. Et d'autres souris ont eu un jeûne total un jour sur deux. Puis il y a un groupe contrôle avec une alimentation normale à volonté aussi, groupe de souris. Alors, 30 jours après qu'il ait été rasé, les souris qui étaient alimentées normalement avaient récupéré le poil. Bon, ça allait bien. Mais pour les deux autres groupes, ça allait pas bien. Puis même pire, c'est qu'au bout de 3 mois, leur poil avait toujours pas repoussé entièrement. Parce qu'ils étaient soit dans un jeûne intermittent, soit dans un jeûne une journée sur deux. Puis là, pour savoir si l'effet serait le même chez les humains, ben ils ont analysé l'impact du jeûne intermittent chez 49 adultes qui étaient en bonne santé, qui devaient jeûner durant 18 heures chaque jour pendant 10 jours. Mais là, chez eux, la repousse des cheveux a ralenti, mais seulement 18% par rapport aux participants sans aucune restriction alimentaire. Alors, ça confirme que le jeûne intermittent, ça a aussi des répercussions sur la capillarité des humains, mais ça a l'air d'être moins pire que chez les animaux. Donc, ça repousse quand même mieux. Mais ça a un petit effet. Donc, le jeûne intermittent a de la misère avec la régénération capillaire. Et ça, la régénération, ça se fait à la 3e phase du cycle de vie des cheveux. C'est la phase qu'on appelle télogène, mais pendant cette phase-là, l'ancien cheveu se détache, il tombe, puis ensuite il est remplacé par un nouveau follicule pileux, puis il produit un nouveau cheveu à la première phase, qui est anagène. Bon, ça nécessite l'activation d'une cellule souche folliculaire, puis l'activation de ces cellules-là, ça dépend de l'environnement de la cellule. Et puis ça peut changer en fonction de la physiologie de l'individu. Alors, c'est ça qui arrive, c'est que ça change l'environnement autour de la cellule. L'alimentation cause ça, des modifications physiologiques. Puis les auteurs de l'étude ont mis en évidence que les deux types de restrictions, le jeûne de quelques heures par jour puis un jour sur deux, s'entraînaient la libération d'acide gras par les cellules adipeuses de la peau. Puis soumis au stress causé par le manque de nourriture, ben le métabolisme s'adapte en brûlant plus de gras. Alors, il y a une partie de ces gras-là qui s'accumule autour des cellules souches folliculaires, puis c'est ça qui modifie l'environnement, qui fait que ça a plus de misère à pousser. Alors, c'est aussi simple que ça, mais quand même, hein, faut y penser. Puis c'est un changement dans l'environnement des cellules qui cause du stress oxydatif, là, que je te parlais au début.
Oui.
Et ça cause davantage de morts cellulaires. Alors, cette perte de cellules capillaires, ben c'est pas une fatalité, là. Les auteurs des travaux ont réussi à l'éviter en augmentant les défenses antioxydantes des cellules. Alors, c'est important de noter que améliorer les capacités antioxydantes des cellules souches folliculaires, ça peut diminuer l'effet inhibitoire du jeûne intermittent. Et ça permettrait de trouver des façons d'éviter l'impact sur la repousse des cheveux. Mais là, en attendant qu'on trouve vraiment comment diminuer ce stress oxydatif là chez tout le monde, ben c'est possible que si vous faites d'un jeûne intermittent, c'est vos cheveux qui en pâtissent un petit peu, là. Alors, tout ça pour dire que c'est pas énorme, là. On dirait que de 18 % ça a baissé, mais quand même, si on fait un jeûne intermittent, ça pousse moins bien.
Alors, tenez-vous là pour dire, si vous voulez avoir une belle grosse tignasse là, bien fournie, c'est peut-être pas la voie à emprunter que de faire le jeûne intermittent.
c'est ce
que
t'es en train de dire. Là, ouais.
Grosso modo. OK, super, merci. Moi, je vous parle de planches à découper. Hein. Si vous devez vous rendre un service dans la cuisine en 2025, à vous et à votre famille également, ce serait, je vous dirais, de vous débarrasser de vos vieilles planches à découper en plastique et de vous tourner davantage vers les planches à découper en bois.
Ah oui, puis pourtant, ouais. Moi, je pensais que le bois, c'est ça, ça absorbe tellement hein, l'eau dedans, c'est dur à nettoyer, ça absorbe.
Attention, d'abord, pour des questions de durabilité et de résistance.
OK.
Parce que les planches en bois sont généralement plus robustes et durables et elles résistent mieux aux coups de couteau et ne se déforment pas facilement avec mm-hmm. le temps. Hein? Les planches en plastique, on le sait, on le voit, là, ils sont très flexibles la plupart du temps. C'est pas très, très épais non plus, plus souvent qu'autrement. Alors, avec le temps, une planche en plastique va se déformer tandis que la planche en bois, de façon assez générale, à moins que vous ayez acheté la plus cheap de cheap, là, elle va avoir tendance à demeurer quand même assez droite pour toute sa vie. Et qui plus est, contrairement aux planches de plastique, les planches en bois ne relâcheront pas de minuscules particules de plastique à force d'être entaillées.
Ah oui, de frotter dessus aussi. Ouais, hein, ouais, couper avec un couteau.
Exactement. Et je vous dirais mieux encore, il y a certaines essences de bois, on parle du hêtre entre autres, ou encore le noyer, qui ont des propriétés antibactériennes naturelles. Donc, les planches en bois sont donc souvent plus hygiéniques que celles en plastique qui peuvent abriter des bactéries dans les entailles et les fissures. Parce que okay. Les planches de bois ont tendance, quand vous allez faire une entaille dedans, l'entaille ne va pas de se refermer sur les bactéries et les emprisonner, tandis que les planches en plastique ont cette propension-là. Quand on va les mettre, par exemple, au lave-vaisselle, le plastique va reprendre sa place et tout ça, et il va enfermer des bactéries dans les entailles. Donc, il y a beaucoup plus de risques de contamination avec les planches en plastique qu'avec les planches en bois.
Mais est-ce que tu disais par contre que c'est pas n'importe quelle sorte de bois, hein? Faut privilégier certaines sortes de bois sur les planches. Puis là, ça, on sait pas nécessairement quand on achète une planche, c'est quel bois.
Ben, je vais vous donner tout à l'heure, sais-tu, Magie, je vais vous donner des conseils pour entretenir votre planche de façon correcte et comment justement combattre les bactéries, parce que ça aussi, c'est très important. L'autre raison pour laquelle je vous dirais d'abandonner vos planches en plastique pour des planches à découper en bois, c'est que le bois est beaucoup moins agressif que le plastique pour les lames de vos couteaux. Hein?
Et ça va permettre. Ça fait moins mal au couteau.
Ça va permettre de préserver le tranchant de vos couteaux plus longtemps. Parce que tu t'achètes un kit de couteaux de chef, tu vas payer une centaine de piastres pour acheter deux, trois couteaux, puis tu es obligé de les changer à toutes les années ou les deux ans parce que tes planches en plastique les ont brisées. C'est pas une grosse charge, tu sais. Alors, c'est ça. Et on va se le dire aussi, les planches à découper en bois, ça a beaucoup plus belle apparence, c'est beaucoup plus beau sur un coin de comptoir de mettre une planche en bois que de mettre une planche en plastique. Hein, ça apporte une touche plus naturelle, plus sophistiquée à votre cuisine. D'ailleurs, vous remarquerez, quand vous ouvrez des livres de cuisine, des livres de recettes, avez-vous vu que les photos, plus souvent qu'autrement, quand on monte des planches, tu sais, tu vois ça des fois, hein, il y a des planches à découper avec des plateaux de charcuterie, des fromages ou des rôtis de bœuf, des affaires comme ça. Tu vois pas des planches à découper en plastique, hein? tu vois, les planches à découper sont en bois parce que le bois, ça a beaucoup plus belle apparence.
Ouais, alors, c'est esthétique, là, ce choix-là.
C'est,
ouais.
C'est esthétique, voilà. Alors, maintenant, comment on fait pour entretenir notre planche à découper en bois? Je vous donne des conseils. D'abord, après chaque utilisation, lavez votre planche à découper en bois à la main avec de l'eau chaude savonneuse. Évitez de la tremper entièrement dans l'eau et ne la mettez jamais au lave-vaisselle. Ça, j'avoue, c'est le bon côté des planches en plastique. On en a des planches à découper en plastique à la maison. Je vous dis pas de pas en avoir, mais de les utiliser, disons, le moins souvent possible. Et la beauté de la chose avec les planches à découper en plastique, c'est que quand tu veux faire un peu presser, tu pars la planche à découper en plastique, tu tailles ta tomate, puis tu n'as pas besoin de la laver, tu la garoches dans le lave-vaisselle, puis tu sais, c'est ça, c'est la voie de la facilité un petit peu. C'est l'avantage des planches à découper en plastique.
Puis l'idée, le bois, de ne pas le mettre dans le lave-vaisselle, c'est qu'on veut pas que le bois soit trempé, hein. C'est ça, parce que tu disais de jamais les mettre dans l'eau complètement.
Faut pas, c'est évidemment que si vous la mettez dans le lave-vaisselle, ben là, le bois va finir par gonfler au séchage, ça va fendre et tout ça. Donc, et une fois que vous l'avez lavé, vous la séchez soigneusement, vous la rangez aussitôt, idéalement à la verticale, dans le sens du grain du bois, pour éviter que la planche en bois travaille trop et qu'elle ne fende. Et puis, de temps en temps, vous allez la désinfecter. Vous allez préparer une solution avec du vinaigre blanc dilué dans de l'eau ou encore du jus de citron mélangé avec du sel. Et on peut aussi, et ça, c'est, c'est une recommandation que généralement les bureaux de santé publique formulent, de l'eau de Javel. Vous préparez une solution d'eau de Javel, vous mettez une cuillerée à soupe d'eau de Javel dans un litre d'eau, vous vaporisez votre planche à découper avec une solution d'eau de Javel et vous rincez ensuite abondamment avec de l'eau chaude avant de la sécher, ça va de soi, et de cette façon-là, vous allez complètement désinfecter votre planche à découper. C'est exactement la même méthode que les cuisiniers, les chefs cuisiniers là, vont utiliser dans les restaurants généralement. Pour éviter le dessèchement du bois, appliquez occasionnellement une fine couche d'huile alimentaire, de l'huile minérale, de l'huile de noix de coco, de l'huile de pépins de raisin, par exemple, pas d'huile de canola, pas d'huile d'olive.
Non,
parce que ça, ça va laisser une petite pellicule graisseuse sur la planche à découper, puis on veut pas ça. Laissez l'huile pénétrer le bois pendant plusieurs heures ou toute la nuit. Essuyez l'excédent avec un chiffon propre. Et enfin, si votre, et ça, c'est la beauté de la chose, vous pourrez jamais faire ça avec une planche à découper en plastique. Quand votre planche à découper en bois commence à montrer des signes d'usure, vous pouvez la poncer légèrement. Vous prenez un petit papier sablé à grains fins, vous lissez la surface, vous faites disparaître toutes les entailles qu'il y a à la surface et vous redonnez à votre planche à découper un air de jeunesse comme vous ne pourrez jamais le faire avec une planche à découper en plastique. Et en lui apportant de cette façon-là les soins appropriés, votre planche à découper en bois va vous servir pendant des années, quasiment des décennies, et elle va garder son aspect esthétique, ses propriétés hygiéniques. On a des planches à découper à la maison, je pense que ça fait 20 ans, 25 ans qu'on a ça à la maison chez nous, puis elles sont encore... Pas belle comme quand elle venait de sortir du magasin, mais quasiment. On s'arrête pour une courte pause. On revient dans un instant. C'est notre dernière ligne droite et nous ramenons le quiz. Et il sera question cette semaine du sommeil et des rêves. C'est ça, hein?
Oui, exactement.
Pour rester en contact avec Peu contenir des infos, abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des suggestions, des idées ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel. pcdi@radiorfa.com
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz. Le quiz.
Eh hey, mes amis, dernière portion de l'émission, la quatrième et dernière de Peu contenir des infos. Difficile de rembarquer sur le bicycle après le temps des fêtes, hein?
As-tu eu des problèmes, Simon, à t'adapter à l'émission aujourd'hui?
Ah, je sais pas. Ça coule pas. C'est correct, on va passer au travers. C'est comme faire une ride de bicycle quand la saison d'hiver, tu mets le bicycle dans le cabanon. Quand tu le ressors au printemps, ça donne, tu sais, ça prend 2-3 coups de pédale des fois avant de retrouver ton air d'aller.
J'ai pas trop remarqué que t'étais rouillé, fait que ça doit pas être trop pire. Là. D'après moi, les auditeurs qui nous écoutent n'ont pas remarqué tant que ça.
Mais attention, on repart avec quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on ramène le quiz et tu vas nous donner, ben, tu vas nous poser des questions. Les gens vont avoir le temps de réfléchir aussi à la maison. Et après ça, tu nous donnes les explications. Et cette semaine, on fait un quiz sur
les rêves, surtout les rêves et le sommeil un peu. Mais c'est parce que justement, dans les sujets qu'on a fait l'an dernier, ça a été le sujet sur lequel j'ai eu le plus de questions, le plus de commentaires quand on a parlé des rêves lucides et aussi l'autre fois où on avait parlé du sommeil puis de l'importance sur le vieillissement et tout ça. Mais là, j'ai toutes sortes de questions qui me sont apparues, puis j'ai vu sur Internet les questions les plus fréquentes concernant les rêves et tout ça. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est des sujets qu'on n'a pas touchés spécifiquement. Je vais te poser une première question, Simon. Pourquoi on rêve?
Moi, je dirais que c'est pour probablement faire le ménage, de notre cerveau. Je dirais ça comme ça.
C'est bien, c'est bien. Ben, je te dirais que, bon, je peux te donner un 5 sur 10 au moins pour cette réponse à la première question. Okay. On va pas noter sur 10 chaque réponse. Mais une des principales hypothèses, je vais te donner tout de suite une piste de réponse qui a été étudiée par le neurologue Matthew Walker de l'Université de Californie à Berkeley aux États-Unis, lui. Ça serait, lui, son hypothèse que le rêve pourrait jouer un rôle dans la santé psychique en assurant une forme de régulation émotionnelle. Alors, t'es pas mal proche avec ton idée de faire le ménage, là.
OK.
Ça permettrait le rêve de revivre des événements sans le stress qui est associé aux événements. C'est assez spécial comment ça fonctionne. Puis le rêve favorise aussi la résolution de problèmes, la créativité, et ça aiderait à mieux affronter certaines menaces dans la vie réelle. Donc, la raison vraiment pour laquelle on rêve, là, c'est sûr que là, on se fie sur les propos d'un neurologue, mais qui l'a étudié beaucoup et qui est très réputé en la matière. Ben, c'est vraiment ça, là, une espèce de ménage. Quand on va du côté de Freud, là, qui a beaucoup analysé là, la psychanalyse et tout ça, ben lui, il disait qu'il y a vraiment un accomplissement de désir. Puis, il y a des bons côtés là dans tout ce qui a amené Freud qui rejoignent les neurologues d'aujourd'hui, parce que on pense à certaines choses qui nous dérangent durant la journée, on refoule ça, on met ça par en arrière, on y pense pas beaucoup, pas plus longtemps que ça, parce que ça nous met mal à l'aise. Puis là, finalement, dans la nuit, ça fait le ménage et ça trouve les solutions, puis ça accomplit un peu le désir qui était caché derrière la pensée qui nous a rendu un peu mal dans notre peau dans la journée. Alors souvent, ça répare un peu ça. Donc oui, ça serait vraiment un gros rôle que ça joue les rêves dans la santé psychique des individus. Des choses qui nous font filer mal, on les travaille durant la nuit, puis finalement, sans s'en rendre compte, le lendemain, on va mieux avec ces sujets-là. Et est-ce que, une autre question que je vais te demander, est-ce qu'il y en a des gens qui rêvent pas? Est-ce que ça se peut ne jamais rêver?
Je pense pas que ce soit possible. D'après moi, je pense pas. Je pense que tout le monde rêve.
Même s'il s'en rappelle pas, mettons?
Moi, j'ai comme l'impression que c'est impossible de pas rêver. J'ai l'impression que non.
Il n'est pas facile, hein, le quiz. Ça ne sera pas facile, tu vas voir, les questions. Ils vont être durs. Bien, je vais te donner une réponse. Il y a 20 % de la population à peu près qui déclare spontanément qu'ils ne rêvent pas. C'est quand même un cinquième là, qui disent qu'ils ne rêvent pas dans le monde.
Okay.
Mais dans les enquêtes qui sont les plus poussées, qui ont été réalisées, je vais te parler d'un autre neurologue pour cette question-là, le neurologue américain James Pagel, je ne sais pas comment ça se dit en anglais, mais les vrais non-rêveurs, selon lui, représenteraient moins de 1%.
Ah ouais, hein?
Les vrais non-rêveurs.
Ah ouais, hein?
Ouais. Puis, il n'y aurait pas aucune maladie, aucune pathologie, et il y aurait la capacité de générer des images mentales, ces gens-là. Mais les neurologues pensent que leur cerveau n'enregistre pas tout simplement les souvenirs de leurs rêves. Donc, il y aurait moins de 1% qui s'en souviendraient vraiment pas, mais on ignore pourquoi. Et ils s'en souviennent pas du tout. Parce qu'un petit peu plus tard, là, dans les questions, je vais te répondre à ça plus spécifiquement avec d'autres détails. Mais je voudrais faire une petite parenthèse, Simon, parce qu'on a eu beaucoup de questions concernant le sommeil et tout ça, et je pense que si on parle du déroulement vite d'une nuit de sommeil, là, ça va répondre à toutes les questions d'un coup.
Okay.
Donc, concernant le sommeil, là, le cycle, hein, le fameux cycle du sommeil, pendant quelques minutes, il y a un état intermédiaire entre l'éveil et le sommeil qui s'appelle le sommeil léger. Ça, c'est le premier stade du cycle, le stade N1. Puis le sommeil s'approfondit, là, on est au stade N2. Puis le sujet, là, il est réellement endormi en N2. Puis si on le réveille au bout de quelques minutes, là, si t'es en stade N2, je te réveille, tu vas savoir que t'es endormi. Tu sais, quand on se réveille puis qu'on sait, non, je m'étais endormi, là.
Okay.
On s'en rend compte tout de suite. Mais pour s'en rendre compte tout de suite, comme ça, il faut être rendu au stade N2. Puis là, après quelques dizaines de minutes de stade N2, le sommeil s'approfondit encore. Là, c'est le sommeil lent profond. Là, on est profondément endormi. Puis, sommeil profond s'interrompt, le sommeil léger réapparaît et il fait place au premier épisode de sommeil paradoxal Et ça, ça arrive après une heure et demie environ. Alors ça, ça dure juste quelques minutes. Ensuite, il y a un sommeil léger, sommeil lent profond, puis sommeil paradoxal encore. Alors ce cycle-là, là, un cycle, c'est à peu près une heure et demie, à peu près 90 minutes. Okay. Puis dans une nuit, on répète le même cycle 3 à 5 fois. Il y en a même pour qui ça va jusqu'à 6 fois. Okay. Mais c'est vraiment ce cycle-là d'une heure et demie qu'on répète. C'est pas pour rien, hein. Il dit, si vous faites une sieste, là, faites-la pas comme 2 heures. Parce que après ton premier cycle, t'es rendu dans le deuxième, puis à un moment donné, tu repars trop dans le sommeil profond. Si tu te réveilles après une heure et demie, c'est parfait. Ou même les petites siestes d'une demi-heure, parce qu'après une heure et demie, t'as fait tout ton cycle au complet, pouf, t'es revenu au sommeil paradoxal, tu te réveilles et tu seras pas trop fatigué.
C'est comme faire une ride de montagne russe, puis que rendu au milieu de ta ride de montagne russe, tu débarques quand t'es rendu dans le haut. C'était un peu ça, là, que t'es...
Oui, exactement ça.
C'est l'image, c'est ça.
Ben c'est bon, l'image est parfaite.
C'est
vrai. Oui, oui. Alors, 3 à 5 cycles successifs comme ça, puis au fur et à mesure que la nuit avance... Par contre, les cycles sont pas tout à fait pareils. La composition des cycles va évoluer. Le sommeil lent profond, au début de la nuit, il y en a beaucoup.
Ouais.
Puis quand la nuit avance, il est plus rare. Puis au petit matin, il est disparu complètement. À l'inverse, c'est le sommeil paradoxal qui est bref au début de la nuit. Puis à la fin de la nuit, il est de plus en plus gros dans le cycle. Alors, les cycles se modifient comme ça, plus on a le temps d'en faire. L'idéal, ça serait d'en faire 5 à peu près par nuit. C'est pour ça qu'on disait là, le temps de sommeil. Là, si tu fais 1h30 x 5, tu tombes à peu près là, dans le 7,5. C'était exactement ça qu'on disait qui était l'idéal. Si tu fais 5 cycles complets puis tu te réveilles, c'est fou comment t'es en forme.
Là. OK, un sommeil réparateur. Là,
exact. Le meilleur possible, c'est celui-là. Tu fais 5 cycles complets. Puis, quel que soit le stade de sommeil, le dormeur se réveille plusieurs fois dans la nuit. Puis ça, on s'en rend pas compte. C'est ça l'affaire. C'est que dans la nuit, on se réveille souvent, mais on est comme un peu entre deux. On n'est pas bien réveillé, donc on s'en rend pas compte. On s'en souvient pas du tout. Mais c'est ça qui est normal et c'est ça qui fait qu'on se souvient des rêves beaucoup ou pas beaucoup. Parce que une des questions, c'est pourquoi on se souvient beaucoup de nos rêves puis d'autres pas. Ben c'est ça, c'est qu'on se réveille une ou plusieurs fois par nuit, souvent sans s'en rendre compte. Et là, je te parle de travaux menés par Perrine Ruby du Centre de recherche en neurosciences de Lyon, en France. Ça a montré que des personnes qui se réveillent souvent dans la nuit, au moins pendant 2 minutes, eux, ils se rappellent de leurs rêves beaucoup plus. Même s'ils se rappellent pas de s'être réveillés, c'est le fait de s'être réveillé plus souvent dans la nuit qui fait qu'on s'en rappelle. Alors, quelle que soit la partie de la nuit concernée, un court réveil, c'est nécessaire pour que le cerveau encode le rêve puis qu'il permette de s'en souvenir. Alors, ça, c'est assez clair. Hein? Alors, une autre question pour toi, Simon.
OK.
Est-ce qu'on peut trouver de l'inspiration en rêvant? Tu sais, comme les artistes, les... Est-ce que vraiment on peut, je sais pas, moi, composer une chanson en rêvant? Trouver non, de l'inspiration pour une œuvre d'art.
Non, ça, je pense que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Non, j'ai pas l'impression que ce soit... Ben, non, non.
Eh ben, pourtant, même moi, ça m'est arrivé, oui, de trouver une musique dans un rêve puis de composer une tune avec en me rappelant de la musique en me réveillant. Puis pas juste ça. On peut voir des belles images, on peut avoir des idées. Imagine les artistes visuels, comment peuvent trouver des idées à travers les rêves pour peindre. Mais même un compositeur, là, Giuseppe Tartini, pour sa sonate qui s'appelle « Le trait du diable ». Il y a aussi l'inventeur Thomas Edison, le chimiste Frédéric Kekulé, ben, oui, qui a découvert la formule cyclique du benzène, lui. Ben, il a raconté que c'est en rêve qu'il a trouvé son invention, ou tous ceux que je t'ai nommés là, qui ont fait leurs œuvres. Est-ce que c'était vraiment des rêves, comme ceux qui sont pendant le sommeil paradoxal? Ben, on peut pas vraiment le dire, mais les idées de ces créateurs-là ont pu surgir pendant la phase d'endormissement, par exemple, qui précède le sommeil, pendant que la pensée, on l'appelle la pensée vagabonde. Ça, c'est une phase méconnue, mais ça intéresse beaucoup les chercheurs. Aujourd'hui, tu vas voir apparaître ça dans les prochaines années, des détails sur la pensée vagabonde. Ça fait partie du cycle du sommeil, mais c'est moins étudié. Ça va être intéressant de voir ça. Autre question?
Okay.
Est-ce qu'on rêve seulement pendant le sommeil paradoxal ou on rêve pendant les autres phases?
J'ai l'impression qu'on doit faire des rêves pas mal dans les autres phases aussi. Ça ne doit pas être strictement réservé à une seule des phases du sommeil. Moi, je me trompe, là.
Ben, je vais te dire ça. Il y a une croyance qui est largement répandue puis qui tire son origine des travaux du neurologue Michel Jouvet dans les années 60. Mais qu'on rêverait seulement pendant le sommeil paradoxal. Mais en réalité, on rêve aussi pendant le sommeil lent. Il y a des expériences où les patients réveillés pendant cette phase-là livraient 5 fois sur 10 un récit de rêve, contre 8 fois sur 10 en sommeil paradoxal. Donc oui, on rêverait quand même pendant le sommeil profond, mais moins. on s'en rappelle moins, du moins. Puis le contenu est généralement moins riche, moins imagé, là, les gens qui racontent les rêves de d'autres phases. Alors, c'est ça. Autre question, est-ce que les femmes et les hommes rêvent de la même chose?
Grosso modo, je pense que oui. Oui, oui, je pense que j'ai l'impression que oui.
Eh bien, non.
Ah non, hein?
Non. En 2008, les travaux du psychologue américain George William Domoff ont montré que les hommes rêvent à 67 % d'hommes. Les hommes rêvent aux hommes. Okay. Alors que les femmes rêvent de manière égale aux personnes du même sexe. Quand il y a des personnages dans nos rêves, des personnes, elles rêvent à des personnes familières, surtout les femmes, des lieux et des intérieurs connus. Et les hommes rêvent davantage d'agressions physiques.
OK.
Et puis, je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps là, pour le bloc. Est-ce que les paraplégiques rêvent qu'ils marchent?
Oui.
C'est une bonne question.
Oui.
Il y a des travaux menés par l'équipe de la neurologue Isabelle Arnulf en 2011 sur 15 paraplégiques montrent que 14 d'entre eux marchaient dans leurs rêves, en effet. Et puis, une dernière, les aveugles de naissance, est-ce qu'ils rêvent d'images?
Probablement, oui, je pense que oui. S'ils en ont déjà vu, oui.
Non, des aveugles de naissance.
Ah, des aveugles de naissance et my God.
C'est dur hein, de comprendre, est-ce qu'ils vont rêver d'images?
J'ai aucune
idée. Oui, d'une certaine manière. En 2003, une étude menée par Helder Bertolo de la Faculté de médecine de Lisbonne au Portugal qui a demandé à un groupe d'aveugles de naissance de dessiner leur récit de rêve au réveil et au préalable, il avait mesuré pendant le sommeil l'activité des aires visuelles du cerveau et c'est la même que celle d'un groupe de voyants qui travaillent. Le résultat, des représentations schématiques mais parfaitement identifiables. Il était capable d'identifier un bateau, des choses comme ça. Et c'est possible que les images ont été issues de représentations en relief. Hein, qui a été exploré par les aveugles grâce au toucher. Mais il y a des études qui ont montré que quand un aveugle lit du braille, il active des régions du cerveau motrices pour les doigts, mais aussi les aires de la vision.
OK.
Alors, il se développe une certaine vision avec des images, les aveugles de naissance, avec tout ce qui est touché et tout ce qui est toutes sortes de choses. Alors, ils se représentent des images dans les rêves.
Bon, on en aura appris aujourd'hui et sur les rêves et sur le sommeil avec un quiz pour cette première édition de « Peut contenir des infos ». Et ça met un terme à cette première version de 2025 en espérant que vous l'aurez apprécié. Sébastien, tu as eu du fun?
Vraiment, vraiment. Heureux de te retrouver encore pour une belle saison. Puis j'espère que les auditeurs seront fidèles au poste.
Parfait. On sera là la semaine prochaine pour un autre ride de Bessic en espérant que mes pédales vont mieux fonctionner puis que ça va bien aller pour la prochaine randonnée.
Je te dis, ça n'a pas paru. C'est dans ta tête, ça, Simon. Moi, j'ai rien vu.
Salut, on va souhaiter une bonne semaine. Merci. Bye-bye.